franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, les enfants d'aujourd'hui ont-ils les mêmes capacités physiques que leurs parents? Avec François Carré.
Les études montrent toutes que moins les parents bougent, moins les enfants bougent. Moins les médecins bougent, moins leurs patients bougent.
Ah oui, c'est un exemple
oui, aussi.
Pour
il y a une étude qui l'a montré.
Pour le patient. Hein.
Oui.
Alors, du côté des enfants, il y a quand même des chiffres qui sont assez étonnants et qui parlent beaucoup aussi de notre époque. Les enfants ont perdu près de 25% de leur capacité cardiovasculaire. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion?
Alors d'abord, c'est une étude qui a été faite par une équipe australienne, donc qui concerne quand même, excusez-moi du peu, 11 millions de collégiens dans le monde, puisqu'ils ont proposé un protocole
Donc la cohorte est quand même de taille.
Et donc ça concerne tous les pays, et donc ils ont montré que en moyenne, la baisse de la capacité physique était d'environ un tiers. Chez dans le pays français, on était plutôt aux alentours de 25%.
Comment ils ont pu l'estimer d'ailleurs? Quelle a
été
la méthodologie?
C'est simple, en 1971, ils ont fait une mesure de la capacité physique des collégiens, ils l'ont refaite en 2011.
D'accord.
Ils ont comparé entre les deux, il y avait une baisse, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y avait pas, c'était le même âge, il n'y avait pas d'autres problèmes a priori, alors peut-être qu'il y avait un peu plus de tabagisme, ça, mais généralement ils s'affranchissent de ce problème-là. Et donc c'est assez ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Moi j'ai régulièrement des patients qui viennent me voir et qui voudraient se remettre à l'activité. Et en discutant avec eux, je leur dis « mais vous allez marcher avec vos enfants ?» Et là ils me répondent « mais attendez, moi si je fais avec mes enfants, c'est eux qui vont me demander de s'arrêter avant moi.
Ouais. »
Aujourd'hui, la capacité physique de nos enfants est moins bonne que la nôtre. Et ça pour nous, on parlait tout à l'heure d'une alerte majeure, ça nous fait très peur. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le meilleur marqueur d'espérance de vie en bonne santé, c'est la capacité physique. Si nos enfants ont une moins bonne capacité physique que nous en avions une à leur âge, ça veut dire qu'ils vivront moins longtemps que nous. C'est ça que ça veut dire.
Mardi, existe-t-il une langue des signes internationale avec Mélanie Ham, Nicolas Tournardre et Dominique Proust?
Si je vois un sourd chinois, au bout de 2 ou 3 jours, je le comprends.
Oui.
Parce que c'est une langue visuo-gestuelle. Donc il y a une logique visuelle. Par exemple, la spatialisation visuelle. En haut, on comprend que c'est plutôt la réflexion, la pensée. Ce qui est au niveau des yeux, vous comprenez que c'est visuel. Hein, on regarde l'autre. Et puis en bas, le cœur, vous comprenez que c'est ami. Donc il y a ça. Et puis aussi... toutes les expressions qui se retrouvent, les configurations, certaines configurations comme beau et fleur. C'est une main qui s'ouvre devant vous.
Dans toutes les langues?
Presque dans toutes les langues.
Ouais. Donc il y a quelques mots, quelques expressions qui sont universelles, mais il n'y a pas de langue des signes universelle.
La langue des signes n'est pas internationale, mais elle est plus internationale que beaucoup de langues vocales.
Ah oui, quand même, hein, Nicolas Tournardre.
Oui, je crois que beaucoup de recherches doivent être encore menées. C'est-à-dire que on a tendance à dire que, comme ce qui est certain, c'est ce que vient de dire Mélanie, c'est que les communautés de sourdes arrivent à communiquer à un niveau de base, j'ajouterais. Mais que pour bien manier une langue des signes, pour bien manier la langue des signes chinoise ou la langue des signes tibétaine ou la langue des signes américaine, j'en parlais encore il y a très peu de temps avec un grand spécialiste de la langue des signes qui est lui-même sourd, eh bien il me disait qu'il avait beaucoup de mal à comprendre la langue des signes américaine. Donc il faut peut-être un peu nuancer. Par contre, une conversation de base, comme le disait Mélanie, en 2 ou 3 jours, on arrive à communiquer. Donc l'accès est plus facile que les langues orales, parce qu'en 2 ou 3 jours, on n'arrive pas à communiquer dans une langue orale.
Comment on dit Saturne, tiens par exemple, Dominique Proust, en langue des signes, belle planète avec de beaux anneaux?
Oui, et ça sera en même temps un hommage à André Braïc, hein, dont nous parlions tout à l'heure.
On aurait pu donner Neptune alors, hein, pour lui rendre hommage.
Oui, Neptune, c'est pas tout à fait le même signe, mais Saturne, vous faites un ballon avec les deux mains, l'une au-dessus de l'autre, et autour de ce ballon, vous allez faire un anneau avec la main à plat. Vous faites le tour de la planète comme ça pour indiquer l'anneau de Saturne.
Ouais. Voilà. Mercredi, les algorithmes qui prédisent nos comportements sont-ils infaillibles? Avec Olivier Grisel et Dominique Cardon.
Tous ces algorithmes prédictifs, ils font des erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quelle mesure ils font mieux que la chance. La chance, c'est prédire au hasard. Et si on est capable de prédire 2 fois mieux que la chance, par exemple, on peut avoir un intérêt à le faire ou pas. Parce que ça a quand même un coût de le faire. Donc si on... Il y a toujours un ratio entre le coût et le niveau de qualité de la prédiction, et dans certains cas, ça peut être utile.
Dominique Cardon.
Oui, moi, dans ce qui a été dit, la chose qui est importante, à mon sens, c'est de dire que on a l'impression, quand on dit prédiction, que l'algorithme aurait deviné ce que seraient nos désirs futurs, ouais. ou qu'il aurait même anticipé, parfois on dit ça, ouais. il aurait anticipé quelque chose que soi-même, on ne se serait même pas dit encore à soi-même, mais comme un désir possible ou potentiel. Ouais. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il calcule, ce qui a bien été montré là, c'est qu'en fait, il calcule le passé. Il utilise les traces de nos actions passées, et à partir des traces de nos actions passées, comparées à la collection de l'ensemble des traces d'autres personnes qui ont fait le même genre de choses que nous, il va dire, il est possible que dans le futur, vous puissiez faire ce que d'autres ont fait, parce qu'ils ont le même type de pattern de comportement que l'individu en question. Et donc, dans nos représentations, la prédiction s'est orientée vers le futur. C'est une sorte de devin, comme ça, de voyante qui aurait éclairé le futur, alors qu'en fait, ça travaille beaucoup sur la trace de nos comportements passés. Ce qui veut dire qu'en fait, pour bien prédire, il faut trouver des comportements chez des individus qui sont très réguliers. Et c'est parce que nous sommes très réguliers et monotones qu'il est de temps en temps possible de prédire des comportements
correcte. C'est une des limites des machines, au fond, justement ? Parce que vous nous brossez là le profil de personnes qui ne bougent pas, qui restent figées dans des comportements assez similaires. Dès lors qu'on sort précisément de ce cadre-là, la machine a du mal à pouvoir prédire les choses.
Elle calcule un peu moins bien, mais là je vais vous dire quelque chose d'un peu décevant, mais typiquement sociologique. C'est-à-dire que notre vie sociale est très régulière. Hein, nous avons des comportements qui sont très réguliers. Très nos déplacements sont très réguliers. On achète un petit peu la même chose. Quand on aime tel type de film, on va regarder tel autre type de film. Bon. Et ça, l'algorithme le devine bien. Si tout d'un coup, quelqu'un qui écoute beaucoup Beyoncé se met à écouter John Cage, ça, l'algorithme ne va pas le voir. Parce que tout d'un coup, il y a un espace de goût qui est si différent dans les régularités statistiques habituelles des gens qui aiment la musique, il aura plus de mal à le trouver.
Jeudi. Quelle évolution a permis à nos ancêtres de descendre des arbres ? Avec José Braga.
Alors, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le cerveau, et ce sont des découvertes assez récentes de fossiles en Géorgie qui nous l'apprennent, le cerveau a finalement évolué relativement tardivement par rapport à cette célèbre bipédie, cette fameuse bipédie qui nous a conduit en bas des arbres. Et donc la bipédie a largement précédé le cerveau de plusieurs, l'évolution cérébrale de plusieurs millions d'années. L'évolution de la bipédie, c'est probablement aux alentours de 5, 6... 7 millions d'années, donc avec Toumaï notamment, alors que le cerveau, le gros cerveau par rapport à la taille du corps et sa complexification, elle, c'est certainement post 2 millions d'années, aux alentours de 2, voire 1 million d'années. Donc on a vraiment un décalage entre les deux. C'est-à-dire que ces critères qui font de nous des hommes sont diachroniques, ils n'apparaissent pas tous au même moment.
Ouais, alors c'est ça justement, c'est cette grande question. Qu'est-ce qui fait justement un humain par rapport aux autres primates ? C'est quoi ? C'est la bipédie, c'est le cerveau ? Là on a déjà des éléments importants dans cette carte d'identité de l'humain ?
Alors la bipédie, probablement pas. En tout cas la bipédie au sens où on l'entend... En imaginant un organisme qui marche sur ses deux pattes postérieures.
Toumaï ou Lucie étaient déjà des bipèdes. Voilà, donc Toumaï. 7 millions d'années, 3 millions d'années.
Exactement. Toumaï et Lucie étaient bipèdes. Ouais. Les chimpanzés peuvent être bipèdes aussi. Ça leur coûte énormément d'un point de vue énergétique,
mais
ils
peuvent le faire.
Exactement.
On les voit même encore aujourd'hui, quand il faut traverser par exemple des rivières.
Hein, tout à fait.
Ils sont capables de se tenir sur leurs deux
pattes. Tout à fait. Mais certains critères viennent peu à peu s'ajouter à ceux que l'on pensée initialement totalement humain ou typiquement humain.
Alors quels critères par exemple, José Braga ?
Alors je pense particulièrement à l'allongement de la durée de l'enfance, qui est un critère extrêmement intéressant aussi lorsqu'on souhaite également partager ou affiner ces critères avec nos amis culturalistes. On sait aujourd'hui que notre organisme, l'organisme humain, est le seul parmi les primates à se développer aussi longtemps. Nous avons une enfance, nous les hommes, qui est très prolongée par rapport à celle de nos plus proches parents, de n'importe quel autre primate. Et cette enfance prolongée a peut-être, je dis bien peut-être, favorisé un apprentissage et peut-être la transmission de savoirs, notamment techno-culturels.
Est-ce qu'il y a d'autres particularités, justement, sur notre identité humaine ?
Oui, alors je m'intéresse particulièrement à l'audition et à l'oreille interne. Et nous savons que l'organe qui nous permet d'entendre, l'organe de l'oreille interne que l'on appelle la cochlée, est chez l'homme disproportionné, à une taille qui est disproportionnée par rapport à la taille de notre corps et nous permet d'entendre plus particulièrement dans les basses fréquences, comme les éléphants, si vous voulez. Mais les éléphants ont une grande cochlée parce qu'ils sont gros. Nous avons une grosse cochlée alors que nous sommes beaucoup plus petits. Et cette capacité à entendre dans les basses fréquences a probablement un lien avec l'apprentissage du langage et la transmission des sons liés à la parole.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.